There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous, vos oreilles sont branchées sur l'AFP, vous écoutez Fragments d'Amérique, le podcast de la rédaction aux États-Unis. Je suis Antoine Boyer et je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro enregistré courant décembre 2018. Il photographie le président américain au quotidien dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Quand il est à l'étranger, ils accompagnent également le couple présidentiel et photographient la première dame dans ses déplacements officiels. Les photographes de l'AFP suivent Donald Trump à la trace et ont immortalisé par leurs clichés ses prédécesseurs.
Président Donald J. Trump.
So that we can keep making America great again.
Dans cet épisode, les photographes vont vous faire découvrir les coulisses de leurs clichés passés à la postérité. Ils vont vous parler des personnalités des différents présidents américains et expliquer dans quelle mesure Donald Trump est si photogénique. Mais d'abord, je vous emmène sur le terrain avec Nicolas Cam. Il photographie, période de fête oblige, Melania Trump dans un événement de Noël avec des enfants.
Well, Merry Christmas. How's everyone doing?
Nicolas, je t'ai vu monter sur un escabeau, pourquoi?
Oui, pour passer au-dessus des têtes des enfants, pour pouvoir mieux capter Mélania.
Elle est comment, Mélania, dans ces cas-là? Elle a l'air tout sourire. Comment tu la sens?
Je crois qu'avec les enfants, oui, elle est assez à l'aise. Dans d'autres circonstances, un peu moins. Elle est souvent beaucoup plus raide et souvent pas l'air très heureuse.
Et je t'ai vu beaucoup bouger, c'est ça? C'est un trait marquant de ton travail, de beaucoup bouger dans...
Quand on peut, oui. Souvent, on est parqué, on n'a pas vraiment le loisir de se déplacer. Ici, on a beaucoup de place, c'est bien. Ça varie les angles.
Et comment ça se passe avec les collègues? J'ai vu qu'à un moment, vous étiez tous au même endroit. Qu'est-ce qui se passe entre vous à ce moment-là?
C'est assez convivial, en fait. On s'entend bien, on sait qu'on essaye tous de faire les meilleures photos possibles. Et donc, on essaye toujours de s'arranger pour laisser tout le monde travailler en même temps.
On est vraiment près là de la première dame, c'est assez impressionnant. Hein,
ouais, c'est assez rare d'être aussi près.
Est-ce que là tu sais déjà un peu les photos qui sont réussies que tu vas garder ou...
Faut que je les regarde toutes. Je pense qu'il y en aura quand même pas mal aujourd'hui. Parce qu'on a eu beaucoup de temps en plus, ce qui est assez rare aussi.
Oui, parce que ça fait 25 minutes hein, qu'elle est là, la première dame.
Ouais, il y aura probablement pas mal d'images.
Bon, je te laisse y retourner.
D'accord.
Eric Barada, Eva Ambar, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes tous les deux responsables de la photo en Amérique du Nord. Eric, il y a combien de photographes de l'AFP accrédités à la Maison-Blanche? Est-ce que tu peux décrire un peu comment le travail s'organise?
En fait, il y a les 5 photographes staff salariés de l'AFP à Washington. Ils sont tous des hard pass holders. Ça veut dire qu'ils ont accès permanent à la Maison-Blanche. Donc, ils passent à travers un processus d'accréditation et de vérification de leur background, de leurs antécédents et qui leur donne accès. Cet accès un peu magique à la Maison-Blanche en permanence, ouais.
Et il y a combien de photographes à chaque fois à la Maison-Blanche? C'est tous les jours, vraiment?
Ah, c'est tous les jours. Dès que le service de presse de la Maison-Blanche est ouvert, un photographe de l'AFP doit être présent. Et il ne peut quitter la Maison-Blanche que lorsque le service de presse ferme.
Il y a une photo que j'ai en mémoire, je crois que c'est une photo de Brendan, où il photographie une cycliste qui lève le bras et qui fait un
doigt d'honneur.
Un doigt d'honneur quand le convoi présidentiel... Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter les coulisses de cette photo?
C'est le classique journée où Trump va jouer au golf en Virginie. Donc le samedi matin, on arrive à la Maison-Blanche très tôt. On prend sa place dans la motorcade, en fait le convoi présidentiel. Toutes les médias ont chacun leur place attribuée. Donc à l'AFP, le photographe est dans la deuxième voiture à côté de la porte à droite. Voilà. Et donc on suit dans la motorcade et... Il se passe rarement quelque chose, mais les photographes doivent malgré tout surveiller parce qu'un accident, une crevaison, n'importe quoi, on doit être là, on doit être présent. Et là, ce jour-là, il passe à côté d'un cycliste et la cycliste lève le doigt. Brendan fait la photo très intelligemment. Les autres aussi, certains autres confrères la font, pensent pas que ça a un intérêt majeur. Brendan la diffuse, enfin l'envoie au desk, elle est diffusée et cette photo est devenue virale d'un seul coup, a été reprise partout. Au point que la personne qui a fait ce doigt d'honneur a été retrouvée, interrogée, machin. Elle a été virée de l'emploi qu'elle occupait à l'époque. Et elle a retrouvé du boulot, parce que tout le monde lui a proposé du boulot. Enfin, entre les anti-Trump et les pro-Trump, comme ce pays est de plus en plus divisé, c'était devenu un symbole, cette photo. Ouais.
J'en profite pour rebondir. Est-ce qu'il y a une responsabilité éditoriale de diffuser ce genre de photo? Et j'imagine que vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle soit renvoyée, cette femme. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez de temps en temps, vous, en tant que responsable?
Toujours. Je crois que ça doit toujours être quelque part au fond de notre tête. Alors, est-ce qu'on se l'est posé pendant des heures à ce sujet-là? Je ne crois pas. On sait très bien la polarisation de la scène politique dans ce pays. On sait que tout est interprété dans un sens ou dans l'autre. Donc chaque photo, malgré tout, doit être un tout petit peu surveillée pour éviter de déclencher des histoires inutiles. Ouais.
Jim Watson, bonjour.
Hello.
Tu es un photographe de l'AFP qui suit quotidiennement le président américain. On est en ce moment même dans les jardins de la Maison Blanche, pas très loin de là où sont les photographes des différents médias. Depuis combien de temps tu couvres l'administration, les différents présidents américains pour l'AFP en tant que photographe à la Maison Blanche?
C'est ma 12e année. J'ai couvert les 4 dernières années de la présidence Bush, les 8 d'Obama, et là c'est ma 2e année avec Trump.
Est-ce qu'il y a une photo que tu as prise de Donald Trump que tu aimes bien?
Je pense à une photo. Il y avait un événement où des camions étaient garés sur la pelouse sud de la Maison Blanche et il a grimpé dans un camion et faisait des têtes bizarres comme s'il le conduisait comme un fou. On a pris plein de photos ce jour-là. Celle-ci se détachait et elle a fait beaucoup de bruit. BuzzFeed a pris toutes mes photos, environ 10 ou 15, et en a fait un livre pour enfants qui s'appelle « Le président et le camion pour grands garçons ». C'était plutôt comique. Vous voyez toutes ces photos de lui. Il a un pin's « J'aime les camions » sur la chemise. Il parlait à des gens. Et puis, il s'est approché. Il y a une photo de lui qui voit deux énormes camions devant la Maison Blanche. Et il monte dedans et fait une tête drôle, prétendant qu'il conduisait comme un fou. Ouais, ça a donné de jolies photos ce jour-là. C'était sympa. C'était un peu différent de ce qu'on a d'habitude.
C'est très dur de se renouveler tous les jours. Je pense que dans le journalisme, une des difficultés majeures, c'est tous les jours d'avoir encore l'envie de raconter un peu la même histoire, mais un peu différemment, et d'être toujours aux aguets, de ce genre de photos différentes, puisque tout le monde est au même endroit, tout le monde a les mêmes optiques, les mêmes boîtiers, etc. Faire la différence, c'est quand même un sacré boulot, et donc chapeau au mec de la Maison Blanche.
Par exemple, chacun de nos photographes a un style très particulier, et on encourage les uns et les autres à chercher, à jouer avec la lumière, par exemple, ou à ne pas avoir des photos avec un horizon nécessairement droit, à jouer sur les lignes, avec les couleurs. Ouais. Habituellement, ça produit plutôt de bonnes images, des images intéressantes, inhabituelles, qui font la différence, précisément.
Ouais. C'est vrai qu'on les encourage à prendre des risques, quitte à de temps en temps louper une photo. C'est-à-dire que la Maison Blanche organise très précisément le travail des photographes. Tout le monde a sa position. On leur donne en gros la lumière, la distance par rapport au président dans lequel ils sont, etc. C'est très orchestré et on se retrouve tous avec la même image. Donc prendre un risque, aller dans le contre-champ, aller sur le côté, sortir du podium officiel pour faire une image différente, c'est des choses qu'on encourage. C'est pas non plus très révolutionnaire, hein, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont encouragées. Ouais.
Beaucoup de gens connaissent le nom de Pete Souza, le photographe officiel de Barack Obama. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre Pete Souza et vous, les journalistes d'agences de presse?
Notre approche est neutre. On prend des photos d'actualité. On ne tente pas de montrer une partie positive ou négative. On vous montre simplement ce qu'il se passe. Alors que le photographe de la Maison Blanche, lui, c'est de la communication. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. La communication, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Mais cette personne prend des photos de l'homme le plus puissant du monde et elle peut décider si elle ne va pas publier un cliché d'un événement ou de ce qu'il s'est passé parce que ça montre une image négative du président. Alors que nous, nous avons une responsabilité de tout montrer et de dire au public américain et au monde entier tout ce qui se passe. Eux, au contraire, ils peuvent simplement dire « Il n'y a eu que des choses positives aujourd'hui, regardez les belles photos de la semaine » et ils ne parleront pas des mauvais côtés.
Donc Nicolas, on était ensemble à cet événement avec Melania Trump, mais toi, tu es en fait photographe à la Maison Blanche pour l'AFP, et donc j'ai envie de te demander comment il est le président américain au quotidien.
En fait, en personne, il est beaucoup plus sympathique qu'on ne pourrait le croire, quelqu'un de, en fait, d'assez jovial. On ressent aussi très rapidement son humeur, ça se voit assez clairement quand il n'est pas content. C'est un homme complexe.
Et son rapport avec vous ?
Il adore les caméras. Donc les photographes et les caméramans de télé, ils les aiment bien. Les reporters, un peu moins.
Tu le sens à l'aise, justement, avec les photographes ?
Oui, très, très à l'aise. Ouais, correspond très bien à son caractère narcissique.
Tu me disais tout à l'heure que c'était assez facile de deviner son humeur. Comment tu reconnais ses émotions ?
Il se lit un peu comme un livre ouvert. C'est très facile de voir ce qu'il est en train de penser, ce qu'il ressent.
Et alors, d'un point de vue esthétique, est-il facile de prendre Donald Trump en photo ?
Oui, c'est assez facile parce qu'il a des mimiques et des gestes assez marqués. Et donc, oui, il est assez facile à photographier. Il a une espèce de grimace qui, je pense, est un sourire, mais ce n'est pas toujours évident. Il a certains gestes qu'il répète souvent, faire un rond avec son index et son pouce, un peu lever les bras, une gestuelle assez marquée. Il se prête très bien à la photographie. Il y a ses cheveux aussi, évidemment.
Parle-moi de ses cheveux.
C'est un grand mystère, ses cheveux. Part dans tous les sens et en même temps c'est très très stylé. Il prend ses cheveux très au sérieux.
Donald Trump, on sait jamais quand il va parler, quand il va faire une grimace. Il a des attitudes et un body language qui est un bonheur pour les photographes parce que il est très expressif. Alors c'est lié à un caractère particulièrement incontrôlable et difficile pour les médias en général, mais pour des photographes, il rentre dans la catégorie des très bons clients, quand même. Il suffit de regarder juste la semaine dernière, la scène dans le bureau ovale où il s'engueule avec... il s'engueule, c'est le mot, il n'y en a pas d'autre, avec Nancy Pelosi et Chuck Schumer, donc, les représentants démocrates au Congrès. Elle est surréaliste pour des photographes qui assistent à ce genre de dispute en live et qui peuvent faire les photos où on voit qu'ils se disputent, quoi. Et c'est quand même très rare.
Sous Donald Trump, c'est plus facile de vendre des photos.
Évidemment, ça n'a échappé à personne. Les photos de Donald Trump, elles sont partout, tout le temps. N'importe quel journal dans le monde, à un moment de la semaine, ou voire quasiment tous les jours, publie des images de Donald Trump. Il fait l'actualité, il génère une espèce de buzz permanent qui fait que nos photos sont publiées partout dans le monde, tous les jours, et évidemment beaucoup plus que sous certaines autres administrations qui étaient plus discrètes, entre guillemets. On voit juste les ventes de photos. La consommation de photos de la Maison Blanche est bien supérieure aujourd'hui qu'elle l'était sous l'administration précédente. Et nos photos font partie de ces images-là. Donc on vend plus de photos aujourd'hui. On en diffuse plus et on en vend plus parce qu'il y a aussi plus d'intérêt.
Il y a un moyen de savoir un peu combien de photos par jour sortent sur les fils de l'AFP Amérique du Nord ?
Oh, je pense qu'on peut, sur l'année, la moyenne quotidienne, ça va être autour de 400-500 photos qui sont diffusées tous les jours. Et il y en a quasiment tous les jours une cinquantaine au moins de Donald Trump. Pour faire très schématique, hein, presque 10% de nos images sont liées à la couverture de la Maison Blanche. Et pour nous, ça valide des années de présence dans le pool de la Maison Blanche, qui n'était pas forcément évident pour une agence non américaine, non anglo-saxonne, d'être dans le pool rapproché en photo, faire partie des seuls 4 photographes qui peuvent être en permanence avec Donald Trump. C'est pas une évidence, c'est souvent une position qui nous est contestée par d'autres médias américains qui voudraient la prendre, cette place. Pour nous, cette place, aujourd'hui, elle a une valeur essentielle. Pour l'agence, de faire partie du quotidien de la présidence, c'est une très, très grande valeur d'information, une très grande valeur commerciale, évidemment.
Et c'est payant, en fait, faire partie du pool.
Non.
Il faut payer.
Non. Non, 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 c'est totalement gratuit. C'est un privilège absolu. Donc, il n'y a pas de coût en dehors du coût d'être en permanence à la Maison-Blanche, de voyager dans Air Force One. Ce n'est pas la compagnie aérienne la moins chère du monde. On n'est pas dans le low cost.
C'est-à-dire, attends, ça veut dire que les photographes, enfin que l'AFP paye un siège quand le photographe voyage avec Donald Trump dans Air Force One.
On paye son siège dans Air Force One, on paye son siège dans le bus, quand il y a des bus pris localement, on paye sa chambre d'hôtel, on paye son petit déjeuner, on paye ses communications pour transmettre ses photos. Tout est payant, il y a un service des voyages à la Maison Blanche qui gère ça très bien et qui nous envoie leurs factures toutes les semaines. Et effectivement, ça représente un coût de couverture sérieux.
Mais
faramineux. Voire faramineux. Il y a eu des voyages historiques de la Maison Blanche avec une dizaine de stops en Asie qui ont coûté $100,000 pour une personne. Donc on est dans des montants de coûts de couverture élevés, mais c'est un absolu privilège de faire partie de ce pool et c'est une place essentielle de la couverture de l'agence.
Le voyage en Asie dont tu parles, c'est celui de Donald Trump l'an dernier ?
Non, c'est il y a longtemps. Je crois que c'était sous Obama. C'était un voyage d'Obama, oui. Il a fait une gigantesque tournée en Asie, au Vietnam et un peu partout. Ouais. C'était sous Obama. Mais il est resté légendaire, celui-là, dans les services comptabilité de l'agence.
Eva, tu es là depuis quelques temps. Tu étais là aussi sous George W. Bush et sous Bill Clinton. Est-ce que tu as vu une évolution particulière dans toutes ces années ?
Je pourrais revenir sur Clinton en particulier. Ça m'a assez marqué parce que Clinton était un président très, très actif. Donc, ses journées commençaient très tôt et se terminaient très tard. Et donc, à l'époque, on n'avait vraiment pas le luxe de mettre un seul photographe sur la Maison-Blanche toute la journée parce que les journées étaient interminablement longues. Donc, nous staffions la Maison-Blanche constamment avec deux photographes sur la journée. Donc, ça rendait les choses vraiment un peu plus difficiles à gérer et à organiser.
Barack Obama, il avait l'air d'être hyper à l'aise avec les photographes, d'être hyper accessible, etc. C'est l'image qu'il donnait, en tout cas moi, c'est l'image un peu que je peux avoir de lui, mais en fait, ce n'était pas du tout le cas.
Non, pas nécessairement. On se battait très souvent pour avoir des accès, enfin pour qu'au moins le pool de la Maison Blanche, les photographes dédiés à la couverture du président, aient accès à certains événements qui avaient lieu dans le bureau ovale, par exemple.
Il contrôlait beaucoup sa communication à travers son photographe personnel, qui était un très bon photographe et qui a fait des images que personne d'autre ne pouvait faire. Aujourd'hui, la Maison Blanche a toujours un photographe attaché à Trump, mais les images qu'on voit partout dans la presse ne sont pas les images produites par la Maison Blanche. C'est les photographes des différents médias qui les produisent. Or, Obama contrôlait beaucoup son image en diffusant lui-même les photos de son photographe. Enfin, pas lui-même, mais son administration diffusait les images prises par son photographe personnel à l'époque. Du fait de la présence de Pete Souza dans les activités quotidiennes du président, l'accès pour les autres médias était totalement restreint. Et ça leur permettait de contrôler l'image du président cool, du président populaire, facile, alors que c'était en coulisses un peu plus compliqué que ça. Ouais.
Je n'irais pas qu'Obama était dans la confrontation, mais il ne se mélangeait pas autant avec nous que Bush. Bush, lui, connaissait nos noms, au moins pour les photographes. Je me souviens d'un jour, on était à l'Académie militaire des gardes-côtes, et je prenais des photos de Bush. Il se dirigeait vers moi, il s'approchait de plus en plus près, et là, tout d'un coup, il m'a donné un petit coup à l'estomac, il m'a dit « Salut Jim, ça va ?»«
Hey, what's going on, Jim ?»
C'est un peu bizarre qu'un président des États-Unis vous donne un petit coup à l'estomac et vous connaisse par votre prénom. Alors qu'Obama, je pense qu'il nous reconnaissait, il savait qu'on était des personnes qu'il voyait régulièrement, mais il ne se mélangeait pas autant avec nous. J'ai couvert les trois derniers présidents et j'ai été vraiment très chanceux de pouvoir suivre George W. Bush et de voir un homme aussi avenant qui appréciait vraiment ce qu'on faisait. Puis après, Obama est arrivé et on a eu des très bons moments, mais on a aussi vraiment commencé à voir que la présidence américaine se tenait de plus en plus à l'écart des médias. Et maintenant, on a ce président qui nous déteste un peu et c'est bizarre. C'est un monde totalement différent. Et nous, on doit être au max tous les jours pour savoir comment on va couvrir ce président.
Et L'épisode 3 de Fragments d'Amérique, c'est terminé. Retrouvez toutes les photos évoquées sur nos comptes Twitter AFP USA et AFPFR. Un grand merci à Eva Aubard, Eric Barada, Nicolas Cam, Jim Watson pour leur participation, à Brigitte Dussault, Éléonore Sens, Léo Mourin et Daniel Slim pour leur aide précieuse, et à Lucie Aubourg qui a fabriqué avec moi ce numéro 3. À très vite pour de nouveaux Fragments d'Amérique.